19h-20h, les informés, présentés par Adil Farkan sur Beurre FM.
Eh bien bonsoir à tous, bonsoir, ravi de vous retrouver. On démarre toute cette nouvelle semaine avec vous, puisque vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre, et je vous en remercie d'avance. Oui, effectivement, vous êtes de plus en plus nombreux, la famille s'agrandit, et c'est un véritable plaisir. 19h-20h, on commente, on analyse, on décrypte l'actualité comme chaque soir. Et si vous êtes prioritaire, chers amis, partout en France et dans le monde d'ailleurs, au 01 53 48 3000, un seul numéro, hein, c'est très simple, 01 53 48 3000, venez nous en parler. La loi sur la loi immigration qui a été, évidemment, peut-on parler d'un camouflet, je fais référence à Gérard Darmanin, ça mérite quand même une clochette, effectivement, parce que Gérard Darmanin, on en parlera longuement ici même, puisque ça vient de tomber, camouflet pour le gouvernement, camouflet pour le président de la République, camouflet pour Gérard Darmanin, c'est la question qu'on se pose, évidemment, dans une poignée de minutes. On parlera aussi de, vous savez quoi, faut-il pénaliser, finalement, les parents défaillants? Est-ce que ça règle la question? Est-ce que les choses peuvent avancer, évidemment, avec les nouvelles mesures que propose la ministre des Familles et des Solidarités? On en parlera tout à l'heure. On reviendra aussi sur la question du racisme anti-blanc, puisque, vous savez quoi, c'est un sujet qui est récurrent, puisque le ministre de l'Intérieur en a parlé ce matin. Il dit effectivement il y a toute forme de racisme, y compris le racisme anti-blanc. Et bien, on en parlera ici même sur Beurre FM. L'uniforme à l'école. Figurez-vous que, eh bien, cette idée émerge de plus en plus et qu'elle prend forme parce que, tout simplement, eh bien, elle est considérée. Alors, il va y avoir, vous savez quoi, des tests grandeur nature, hein, dans certaines écoles. Il va y avoir, évidemment, voir un petit peu comment ça fonctionne. Est-ce que cela va réduire les inégalités? Est-ce que cela, évidemment, va effacer, hisser certaines choses? On en parlera tout à l'heure. Le quoi de neuf, tout à l'heure avec Michel Taube, qui viendra nous livrer son point de vue, son billet d'humeur, c'est à 19h50. Et puis l'interview avec une journaliste qui se fait menacer et qui subit des pressions permanentes. Et c'est Faïza Ben Mohamed qui est avec nous dans une poignée de secondes. Voilà le programme qui vous attend. Il est assez riche, mais toujours passionnant, comme chaque soir. Et surtout, en toute liberté d'expression.
Les informés. L'interview.
Avant de retrouver les débatteurs influenceurs, Faïza Ben Mohamed, bonsoir.
Bonsoir Adil.
Merci d'être avec nous. Alors vous êtes militante, vous êtes engagée, vous êtes une journaliste. Journaliste, et ce soir, dites-moi, alors je voudrais qu'on parle, parce que, évidemment, on vous connaît, puisque régulièrement vous intervenez sur l'antenne des informés avec nous, mais voilà, ce soir aussi, on a envie de vous soutenir à notre manière dans les informés sur BFM, parce que, franchement, depuis plusieurs semaines, maintenant, vous subissez du harcèlement, vous subissez des pressions, vous subissez des menaces de mort. Est-ce qu'on peut revenir sur cette actualité qui vous concerne, Faïza Ben Mohamed? D'abord, quelle est la raison précise?
Déjà, je vous remercie pour votre soutien et donc votre invitation, parce que l'invitation vaut soutien. Alors la situation, elle est un petit peu compliquée pour... alors je ne voudrais pas qu'on se focalise que sur mon cas, parce que cette question du harcèlement des journalistes sur depuis le début de la guerre engagée par Israël contre le Hamas le 7 octobre dernier, on est de nombreux journalistes à avoir à subir ce genre de choses. Là, pour moi, ça s'est rendu plus visible parce que j'ai eu le réflexe d'enregistrer les audios et donc de les diffuser pour que tout le monde voit qu'il y a là-dedans bien des... En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a des groupes...
Je les ai écoutées, les vidéos, j'ai écouté certaines. C'est vrai que vous les avez publiées, Faïza Ben Mohamed. Vous les avez publiées. J'en ai entendu quelques-unes de ces vidéos. C'est choquant, les propos qui sont tenus. Qui sont ces gens-là? Est-ce que vous avez porté plainte? D'abord, le contenu est choquant. Vous pouvez nous en livrer simplement comme ça la teneur de quelques messages?
Des menaces de viol.
Je prie d'excuser évidemment les auditeurs d'entrer de ce que vous allez entendre, parce que je veux qu'on les entende, ces mots, justement, Faïza Ben Mohamed.
Franchement, les mots, ils sont vulgaires. Après, je sais pas, il préfère respecter les auditeurs et pas répéter les vulgarités, mais il y a des menaces de viol. Il y a des menaces d'égorgement, il y a des gens qui m'ont appelé en me donnant mon adresse personnelle, en me disant voilà, on sait où tu es, machin, t'es toujours dans ce bâtiment, ce truc, machin. Il y a des gens qui m'ont appelé en me disant bonjour, c'est Chronopost, je suis le livreur, est-ce que je peux avoir le code du portail? Et donc je sais qu'ils étaient devant chez moi et qu'ils attendaient juste de pouvoir accéder à la résidence en réalité. Et ces menaces, elles sont systématiquement accompagnées de espèce de terroriste, espèce de Daesh, tu soutiens le Hamas, parce que dans mon travail de journaliste, eh bien, j'ai eu évidemment à écrire, comme des milliers d'entre nous, des articles sur ce qui se passe, et que j'ai pas pris forcément les déclarations de l'armée israélienne pour content, et que donc j'ai parlé dans certains articles de la question.
Vous avez
de
fait votre travail de journaliste, vous avez essayé de creuser un peu plus. Voilà, c'est ça que vous venez nous dire. Ouais. Alors, Faïza Ben Mohamed, effectivement, vous avez essayé de creuser davantage dans votre travail d'enquêteuse, hein, c'est-à-dire de journaliste, d'enquête, d'investigation, c'est ce que vous avez fait, c'est ça, hein, pour essayer d'au mieux d'être un peu plus factuel. Dites-moi, Faïza Ben Mohamed, est-ce que vous avez porté plainte, et qui sont ces gens précisément?
Alors, je vais commencer par qui sont ces gens. Il y a des groupuscules qui se sont formés sur Telegram, qui sont constitués de militants et puis de personnes lambda, hein, parce qu'il y a plus de 1000 personnes sur un groupe en particulier qui a été infiltré par des militants contre l'islamophobie. Il y a plus de 1000 personnes dans ce groupe, des militants franco-israéliens qui sont donc pro-colonisation et qui... pour certains d'ailleurs, sont déjà installés en Cisjordanie occupée. Certains vivent en Israël, certains vivent au Maroc, certains vivent en France, Paris, Lyon, Nice. Et donc, ils se sont fait circuler une liste de personnalités qu'il fallait faire taire. Et ça, ils l'assument complètement. C'est écrit noir sur blanc. Le groupe a été infiltré, donc j'ai des captures d'écran. Ils décident de s'en prendre, alors à moi en tant que journaliste, mais à Jean-Luc Mélenchon, à Mathilde Panot, à David Guiraud, plein de députés LFI comme ça qui ont pris position en faveur de la Palestine et qui donc aujourd'hui ont fait partie de cette vague de harcèlement. Les numéros de téléphone ont été transférés, il y a certains humoristes aussi, franco-maghrébins, qui ont été harcelés, Malik Bentala, Redon Bougueraba, Bouchra Beno, les numéros de téléphone, ils sont dans cette liste. On est à peu près une trentaine comme ça à avoir été ciblés. Alors le procédé, il est simple. Ils balancent des informations, l'identité des personnes qu'ils veulent cibler. Le but, c'est de les faire taire. Ils le disent, ils l'assument. Ils demandent de harceler. Mais par contre, ils expliquent clairement qu'ils veulent mener des actions violentes. Et ça, c'est écrit noir sur blanc aussi. Ils fomentent des actions violentes. Ils demandent à toutes les personnes âgées entre 20 et 25 ans qui seraient en région parisienne dans le 92, 94, dans le 95, eh bien, si elles se portent volontaires, d'aller suivre des entraînements physiques pour être capables, alors ils disaient, être capables de réagir à chaud dans un milieu de stress, en assumant l'idéologie qu'ils portent, machin. Donc il y a vraiment une volonté de passage à l'acte violent, c'est des milices d'ultra-droite franco-israélienne. Ils assument complètement qui ils sont, ils assument ce qu'ils font. Et puis bon, pour ma part, évidemment, bon, j'ai pu enregistrer la plupart de ces appels. Le message qui m'est passé, il est clair. Arrête de parler d'Israël. Ça, on me l'a répété, on me l'a dit dans plusieurs appels. Excuse-toi. Il faut que tu t'excuses d'avoir parlé de la colonisation parce qu'Israël ne colonise pas le territoire palestinien. Et puis, il me disait, si tu t'excuses pas, tu vas entendre notre voix jusqu'à la fin de tes jours. Et effectivement, depuis que ça a commencé, j'entends leur voix de tous les jours.
Est-ce que vous avez, alors qu'est-ce que vous avez décidé? Est-ce que vous avez, par exemple, décidé de porter plainte?
Oui.
L'avez fait. Et puis, est-ce que vous craignez dans votre vie quotidienne, Faïza Ben Mohamed?
Alors sur la plainte, oui. L'agence pour laquelle je travaille, l'agence Anadolu, qui est basée en Turquie, a tout de suite pris les devants, m'a fourni une assistance juridique, m'ont envoyé leurs avocats. Qui s'occupent de l'affaire, qui ont déposé plainte devant le parquet de Paris. On a pris la chose très au sérieux parce que ces milices, il y a là-dedans la brigade juive, la LDJ, qui sont déjà connues pour avoir mené des actions violentes, notamment à Paris, en marge de certaines manifestations. Donc oui, effectivement, pour répondre à votre question, si je crains quelque chose, honnêtement, pour la première fois hier, j'ai pas pu aller couvrir une manif pro-palestinienne à Nice. Parce que deux jours avant, on m'avait appelé pour me dire « Est-ce que tu seras à la manif ? Si tu vas à la manif, on va bientôt se rencontrer. » Et donc, je me suis dit « Est-ce que je vais travailler ?» Tout simplement, faire mon boulot, aller filmer, aller interviewer des manifestants, ou en ayant le risque que quelqu'un...
Faïza Ben Mohamed, vous le savez, vous, en tant que journaliste, vous pouvez aussi bénéficier d'une protection si vous interpellez le ministère de l'Intérieur.
Il y a eu... vous savez, quand j'ai publié les audios... on va t'égorger ta grand-mère, on arrive, on sait où t'habites, on va te violer dans les tunnels du Hamas, on va te découper. J'ai publié ces audios sur Twitter. Il y a eu près de 2 millions de personnes qui ont vu ce tweet et la moitié ont interpellé Gérald Darmanin. Mmh. J'ai l'impression que sincèrement tout le monde s'en fiche un petit peu. Ça ne les intéresse pas parce que j'ai peut-être pas le profil qui fait que ça indigne la classe politique. Il en demeure pas moins que, bon, mon cas personnel, il faut en faire abstraction, mais il y a quand même dans cette liste des députés qui ont eu à subir la même chose, des députés qui sont représentants de la nation. Moi, au milieu, ok, mais en réalité, ce qui est inquiétant, c'est qu'ils puissent agir comme ça en toute impunité. Gérald Darmanin est forcément au courant, il a été interpellé par des milliers d'internautes. On l'a vu beaucoup plus rapide, beaucoup plus prompt à prendre des mesures quand il s'est agi des propos, par exemple, de Mélenchon envers Rachel Krieff, qu'il a juste qualifié de fanatique. Il n'a pas appelé à son job, il n'a pas appelé à son meurtre.
Isabelle voilà. Mohamed, vous allez continuer à effectuer votre travail, j'imagine, journalistique. Et qu'est-ce que vous comptez faire dans la vie quotidienne, évidemment, de votre travail, dans le cadre de votre travail journaliste?
Sincèrement, les appels qui me sont passés, et vous aussi, Adil, en tant que journaliste, si on vous appelait, on vous disait « Alors, t'as peur maintenant? Alors, tu vas changer de numéro? Alors, tu vas arrêter de travailler ?» Ah, ça y est, hein, plus d'articles sur la Palestine, plus d'articles, hein, palestiniennes de merde, des trucs, enfin bref, ça part dans des trucs comme ça. Et ben, la réaction que j'ai, dans un premier temps, évidemment, c'est flippant. Mais ensuite, je me suis dit, mais en fait, je vais ni changer mon adresse, ni mon numéro de téléphone, et ni arrêter de travailler, c'est hors de question. Sinon, c'est leur permettre de gagner, et c'est leur permettre d'aller faire ça avec qui ils veulent après. Après moi, ce sera qui? Ce sera d'autres personnes. Et puis, au final, il n'y a plus de journalistes qui pourront travailler librement. Donc non, je n'ai plus peur. Non, je ne vais pas m'arrêter de travailler. Non, je ne vais pas changer mon numéro de téléphone. Et si ils pensent ça, et c'est être bien naïf. Je pense que la cause palestinienne est une cause qui doit dépasser les questions individuelles. Et donc, le travail du journaliste doit être respecté en tant que tel.
Justement, en parlant de travail journalistique, j'ai un débatteur au Chénier, qui est aussi un ancien élu, qui faisait référence que Rutel Krieff, à juste titre d'ailleurs, elle bénéficie d'une protection policière. Pourquoi pas vous?
Je l'ai dit, je pense que j'ai pas du tout le profil qui intéresse. Il est question de la sphère médiatique mainstream française. Elle est focalisée sur un certain type de victime. Et j'ai pas le profil de ce type de victime, donc mon cas personnel.
Oui, est-ce que vous-même vous en avez fait la demande auprès du ministère de l'Intérieur, Isabelle Moyet? Comme tous les journalistes d'ailleurs.
J'en ai pas du tout fait la demande.
Il faut en faire la demande, c'est ça, effectivement. C'est le journaliste, hein, c'est au journaliste ou à l'agence pour laquelle vous travaillez qui doit faire la demande au ministère de l'Intérieur, effectivement.
Ben, écoutez, puisqu'on en parle, je vais le faire et puis on en reparlera pour une prochaine intervention.
Non, mais tenez-nous au courant. Non, mais ça m'intéresserait de voir effectivement quel est le suivi concernant votre dossier. Ça nous intéresse effectivement pour voir.
Et pour l'instant, pour préciser, malgré ma plainte, le parquet n'a pas ouvert d'enquête. Pour l'instant.
Qu'est-ce que vous avez envie de livrer comme message à celles et ceux qui vous écoutent, justement, et je vois des auditeurs qui nous appellent et qui ont peut-être aussi envie de vous soutenir, ma chère Isabelle Mohamed?
Quand j'ai choisi ce métier de journaliste, vous l'avez dit dans ma présentation tout à l'heure, vous avez dit que vous êtes militante, puis vous intervenez souvent sur des débats de société, c'est vrai. Je suis militante et j'ai été militante avant d'être journaliste, et je suis aujourd'hui journaliste militante. Comme beaucoup de monde chez BFM ou chez CNews qui milite pour telle ou telle chose.
C'est ce qu'on appelle du journalisme d'opinion, tout simplement.
Voilà, avoir des convictions et les faire transparaître. Moi, j'ai pas de problème à expliquer que je suis une journaliste spécialisée des questions d'islamophobie. Et là, en l'occurrence, sur ce qui m'arrive, il y a un petit peu beaucoup d'islamophobie là-dedans parce qu'on fait constamment référence à ma religion aussi dans ces appels téléphoniques. J'ai qu'un message. Le jour où j'ai signé mon contrat de travail en tant que journaliste, je me suis promis de le faire avec probité et avec mes tripes, avec mes convictions. Elles plaisent ou elles plaisent pas, ça m'importe peu. Si quelqu'un, mes écrits ne plaisent pas, il clique en haut à droite, ça ferme ma fenêtre et puis au revoir. Je continuerai de travailler, je continuerai à dire qu'il y a de la colonisation des territoires palestiniens, je continuerai à dire qu'il y a de l'islamophobie en France. Et ça, pour me faire taire, il faudra venir le faire physiquement.
Isabelle Mohamed, vous êtes, vous l'avez dit vous-même, un journaliste engagé, journaliste d'opinion. Bon courage à vous surtout, et puis vous nous tenez au courant, hein, si vous interpellez le ministère de l'Intérieur, tenez-nous au courant, on a besoin de savoir.
Ce sera fait, promis. Merci
beaucoup. Merci à vous, et bon courage évidemment pour la suite, ma chère Isabelle Mohamed, et merci d'être intervenue avec nous, hein, je voulais juste vous saluer. Bon courage à vous surtout, Faïza.
Merci beaucoup.
À bientôt. Les débatteurs, tiens, ils sont là autour de ce plateau. Ménad Ouchenir, bonsoir.
Bonsoir Adil.
Ancien élu, mais également aussi aujourd'hui consultant numérique. À ses côtés, nous allons le représentant de la CGT, mais également auteur, Jimmy Dalidou. Comment ça va ?
Bonjour à tous.
Tout va bien ?
Bah écoutez, on fait aller.
Le conseiller régional qui est remonté aujourd'hui, paraît-il, s'appelle Philippe Nadjiboyaki. Bonjour, mon cher Philippe Nadjiboyaki.
Bonjour aux auditeurs et aux auditeurs.
Un journaliste, exactement. Un journaliste à vos côtés, Merwan Mioubi. Bonjour.
Bonsoir, Adil.
Comment ça va ?
Ça va très bien.
Je sens que le débat va être animé. On va parler de ce premier sujet. Ça vient de tomber tout de suite. D'abord, je voudrais accueillir tous nos auditeurs, peut-être qui soutiennent aussi Faïza Ben Mohamed, de Toulouse. On a pas mal d'appels là. 01 53 48 3000. Venez exprimer votre point de vue, mais surtout, on va parler de cette loi immigration. Darmanin, en ce moment, il va s'entretenir avec Emmanuel Macron. Ça va être chaud à l'Elysée. Je le sens. Clochette. Aïe, aïe, j'aime ça. Allez, à tout de suite.
Les informés reviennent dans un instant. 19h-20h. Les informés, présentés par Adil Farkan sur Beurre FM.
Et 19h20 précisément avec nos débatteurs influenceurs, chers amis. C'est parti, vous savez quoi ? Oui, on va parler de la loi immigration, mais priorité, c'est une promesse. Quand je dis que c'est une promesse, il faut la tenir. Il faut s'y engager. Les auditeurs ont la parole.
01 53 48 3000. Les informés vous donnent la parole.
Je vais commencer par Fatima. Paraît-il qu'elle a plus de batterie, Fatima. Bonsoir, Fatima.
Allô.
Bonsoir, vous n'avez plus de batterie, vous n'êtes plus de Paris.
Presque, j'ai pas de batterie.
Vous êtes retraité. Allez-y. Alors, si vous n'avez plus de batterie, je vous donne la parole.
Bonsoir, Adil, à vos invités. Je voulais juste dire qu'il n'y a ni racisme anti-blanc, ni autre chose. Il y a un racisme anti-maghrébin, anti-musulman à 40 000%. Quand on ferme une école, soi-disant, comme ils appellent coranique, alors qu'il y a des écoles d'autres religions qui sont conventionnées par la mairie de Paris et par l'État, moi j'appelle ça, c'est du racisme.
Attendez, moi j'appelle ça, alors il y a le racisme structurel, ce qu'on appelle,
racisme,
effectivement.
Racisme.
Attendez, il y a Ménad Ouchilia, l'ancien élu qui veut échanger avec vous. Ménad, vous allez parler à Fatima, allez-y.
Bonsoir Fatima.
Bonsoir,
effectivement, j'ai réagi. Et
Adil, ça vous fait bondir.
Et Adil m'a repéré avec son œil de lynx. Mais
ah bah ça oui.
Ce que je voulais dire, madame, c'est qu'il n'y a pas un racisme plus qu'un autre. Il y a du racisme tout court. Donc des gens qui discriminent d'autres gens en fonction de leur origine ethnique ou leur croyance religieuse. Mais de là à nier qu'il y a un racisme anti-ceci, anti-cela, non, il y a du racisme de. Malheureusement, j'ai envie de vous dire, mais.
C'est les blancs qui sont malmenés.
Non, c'est pas un match de foot avec des maillots. C'est il y a du racisme. Il y a des racistes. Paradoxalement, le racisme c'est quelque chose d'extrêmement tolérant.
Oui, ça fait débat.
On le trouve partout.
Moi, je le vois dans toutes les couches
de la société. On le trouve dans tous les pays.
Non, c'est la propagande.
Il y a du racisme, malheureusement partout, qu'il convient de combattre. Mais simplement,
c'est Jimmy Dalidou qui vous
soutient. Je rends la parole, mais ne pas hiérarchiser les racismes. Il n'y a pas un racisme.
Fatima,
je voudrais dire un mot. Il y a un seul racisme. Bon, c'est le racisme anti-musulman. Je voudrais dire un mot sur Madame Ben Mohamed. Madame Ben Mohamed n'est pas. Bien sûr qu'on la soutient, mais ce n'est pas une journaliste d'opinion. Oui. C'est une journaliste qui fait son travail correctement. Oui, c'est-à-dire qu'il raconte la réalité.
Elle a dit clairement. Elle a dit, je suis une journaliste engagée. Voilà. Elle l'a dit. Ça existe. C'est pas dérangeant.
Les journalistes d'opinion sont sur certaines chaînes qui émettent H24. Dire que Gaza est un cimetière à ciel ouvert, donc ça c'est un journaliste d'opinion, c'est raconter la réalité.
Oui, c'est factuel. Avant que votre batterie nous lâche, je vous libère, Fatima.
Je vous remercie, Adil.
Mais c'est moi qui vous remercie.
Merci, je vous embrasse.
Je vous embrasse aussi. Merci pour votre fidélité.
Merci à vous.
À vous aussi. C'est bien de prendre. Moi, je prends ça, moi. Docteur Aitkaki, c'est ça, à Toulon. Bonjour, docteur.
Oui, c'est bien ça. Bonsoir.
Alors, docteur, qu'est-ce que vous avez à nous dire ? Ça va mal ?
Écoutez, franchement, le racisme, pour moi, c'est un petit peu un sujet à débat. Bien sûr qu'il restera toujours un sujet à débat. Vous m'entendez ?
Oui, très bien. Allez-y, docteur. On vous écoute.
Je dirais que c'est un rapport de force, en fait. Hein. Plus on est, j'ai envie de dire, plus on est installé dans la société. Et je pense que le problème de racisme ne devient pas un problème de racisme. Moi-même, qui l'ai vécu plusieurs fois, on va dire, dans ma carrière, dans ma vie.
Et vous êtes médecin en plus. Hein. Ouais.
Exactement, ouais. Donc à l'hôpital, effectivement, on peut vivre ou bien on peut subir un racisme de certains chefs, de certaines personnes. Mais une fois qu'on arrive, une fois qu'on passe cette étape-là, je pense que la question ne se pose plus. Du moins, c'est mon vécu, c'est mon ressenti un petit peu. Cela dit, je voulais un petit peu dévier, pas vraiment dévier de la discussion, mais je voulais un petit peu parler de la loi de l'AME, en fait, de la suppression de l'AME.
Allez-y.
Je sais pas si c'était le sujet de votre débat
c'était
ou pas.
C'est pas le sujet, mais allez-y rapidement, il n'y a pas de problème, allez-y. Ça en fait partie, effectivement.
Et en fait, le problème, c'est que voilà, oui, j'en ai pour 2 minutes, quoi.
Avec un peu moins de 2 minutes, parce qu'il y a beaucoup de monde.
Même pas, j'en ai pour 1 minute. Bah, moi, je trouve scandaleux, en fait, que l'État veuille, supprimer cette loi qui est vraiment un des principes fondamentaux de notre République, qui est dans la solidarité, et puis voilà quoi, c'est vraiment...
Alors, attendez, il veut vous répondre, le conseiller régional. Le conseiller régional veut...
Bonjour docteur, merci infiniment. Alors, du coup, c'est pas du tout l'État et la loi de Gérald Darmanin, c'était la mouture qui était sortie du Sénat, comme quand on supprime la AME, on régularise pas les sans-papiers, etc. Et donc, ça a été revisité par la commission des lois. La commission des lois au Sénat, et donc la nouvelle loi qui était proposée aujourd'hui et qui a été rejetée, et on en débattra tout à l'heure, merci la gauche. Et ça, c'est ironique.
Clochette.
Non, mais c'est vraiment ironique.
Oui. Maintenant qu'elle a été rejetée,
elle va repasser en commission paritaire. Elle va repasser en commission paritaire avec
le marxisme,
parce que il faut savoir qu'elle avait été réintégrée, l'AME, la régularisation a été réintégrée, ils avaient été remodifiés.
Parce que la loi avait été
supprimée. J'ai pas fini. Attends, Jimmy.
Il est en train de parler à notre chroniqueur et vous êtes en train de
le Sénat avait.
Vous êtes en train le débat là-bas démarrer.
En train de retourner le Sénat.
Non, je suis en train de dire factuellement ce qui s'est passé. Le Sénat avait supprimé l'AME et avait supprimé la régularisation. La commission des lois au niveau de l'Assemblée nationale les a réintégrés grâce à la gauche, aux gens super intelligents de gauche, avec l'aide du Rassemblement national et de la droite. J'ai pas fini, Jimmy, laisse-moi finir s'il te plaît, c'est hyper indélicat, on dirait un marxiste-léniniste.
J'en suis là justement. Ah ouais. Donc,
ils ont rejeté cette nouvelle mouture de loi parce qu'ils disent que c'est pas assez de gauche, etc. Ça va repartir normalement en commission paritaire, sauf que là, les députés de la Macronie, ils vont faire un grand cadeau à la droite et à l'extrême droite, parce que là, du coup, ils vont vraiment supprimer l'AME et ils vont supprimer la régularisation.
Voilà, mon cher docteur.
Donc là, c'est sûr que ça va.
Vous savez tout. Merci, docteur, pour votre intervention.
Merci, doc.
Oui. Merci.
Merci et au plaisir, mon cher docteur. Je vais juste accueillir encore quelques auditeurs 01 53 48 3000, mais vous avez tout, vous savez, jusqu'à 20h hein, pour parler. Hein. Toulouse, Alim, vous êtes illustrateur. Alim, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Bienvenue, on vous écoute, Alim.
Oui, alors j'écoutais un peu l'émission et puis je voulais revenir sur le projet de loi immigration, mais aussi sur le racisme quand le politique, enfin je ne sais plus qui c'est, et exactement, qui disait qu'il n'y avait pas de racisme. En fait, il est...
Ménadouchénir.
Je voulais juste contredire pour dire que c'est d'abord géopolitique et en fait, les Arabes et les Noirs sont vus comme des ennemis intérieurs et à l'extérieur des ennemis extérieurs. Voilà. La guerre en Ukraine, elle a prouvé qu'on parlait d'immigration de qualité quand il s'agissait d'Européens, alors que l'immigration africaine a été traitée différemment. La loi antiterroriste a tué depuis les années 90 4 millions de musulmans pour lutter contre un terrorisme qui tue finalement 89,5% des Arabes.
Alim.
Donc en fait, je crois qu'on nous raconte des bananes et puis que simplement il y a un vrai racisme.
Vous permettez Alim que Ménad Ouchenir, l'ancien élu, vous réponde. Eh ben, allez, à lui la parole.
Alors, je vais essayer d'être synthétique. Le racisme existe et ce que je refuse de faire, c'est de hiérarchiser les racismes. Un racisme est un racisme. Voilà, c'est tout.
Merci.
Et pas plus compliqué que ça.
Merci Alim. Malheureusement, vous savez quoi, il faut que j'avance. Vous prie de m'excuser, mais il faut vraiment que j'avance. Non, parce que je me suis mis beaucoup en retard. Alim, merci. 01 53 48 3000. Solal continue de vous accueillir au standard. Vous êtes les bienvenus jusqu'à 20h. Le face à face.
Les informés. Le face-à-face.
Et le face-à-face, vous savez quoi, on va parler tout simplement. Les députés se sont exprimés à l'Assemblée nationale. Voilà ce que ça donne. Écoutez la présidente, la patronne de l'Assemblée nationale, justement, Madame Braun-Pivet, qui a...
C'est un lapsus.
Je vous prie de m'excuser. la présidente de l'Assemblée nationale, elle s'est exprimée. Voici ce qu'elle dit.
Le scrutin est ouvert, on écoute ce qui se passe à l'Assemblée. Pardon.
535, majorité 268 pour 270 contre 265. L'Assemblée nationale a adopté. En conséquence, le projet de loi est rejeté.
Le projet de loi est rejeté. Messieurs, tout de suite, un tour de table. Allez, c'est parti, Marwan.
Je
sens que ça va débattre, c'est bien.
Je suis toujours aussi abasourdi devant toutes les manœuvres de la République en marche. Non, la Renaissance, pardon, c'est vrai, c'est la Renaissance.
Allez, vous avez droit à une première clochette, vous.
Hein. Voilà. Non, c'est de chercher toujours une thématique pour cacher les véritables problèmes de ce pays, qui sont le travail, en réalité, l'agriculture, la santé. Tout va dans tous les sens, mais on va aller chercher l'immigration, qui est un symptôme parmi tous les problème qu'a ce pays, c'est ridicule, voilà. Et bien content de voir que Darmanin se prenne une claque, et également Emmanuel Macron à vouloir à chaque fois faire de la politique politicienne, on se prend des revers et c'est le cas. Voilà.
Philippe Nadjibourier, qui est le conseiller régional, vous dites quoi vous ? Qu'est-ce que cela vous inspire ? Vous avez l'air surpris, hein ?
Non, ce qui me surprend, c'est cette alliance entre l'extrême droite et l'extrême gauche, donc des vases communicants, pour se faire plaisir et faire. Enfin, on voit très bien la manœuvre de l'extrême droite.
C'est eux qui vont voter contre. Hein.
Oui.
Fallait bien qu'ils se rejoignent.
Qu'ils fassent un même parti, comme ça, c'est sûr qu'ils sont dans le même bateau.
Ils sont anti-Macron.
La manœuvre de l'extrême droite, c'est d'arriver à une dissolution, et on se rapproche tout doucement, et puis on verra bien ce qui va se passer. Ils sont complètement. L'extrême gauche vient de faire, et la gauche, et les écologistes, Europe Écologie des Verts, on les appelle comme on veut, viennent de faire, pas le casse du siècle, mais le fracas du siècle. Moi, aujourd'hui, je pense à tous ceux qui bénéficient de la ME, à qui on va dire stop, ça suffit. Je pense à tous ces émigrés et je les remercie de ce qu'ils font pour notre pays, pour le développement économique de notre pays, pour la construction de notre pays, qui pensaient et qui voyaient la régularisation au bout du fusil. Et ben là, au bout du fusil, c'est eux qu'il va y avoir, parce que la loi va repartir en commission paritaire, elle va être durcie comme le Sénat l'avait prévu. La commission paritaire, c'est moitié Sénat, moitié Assemblée nationale, et les gens de droite et de la Macronie vont retirer ce qui fâchait pour pouvoir faire passer leur loi.
Jimmy Dalidou, et ensuite Ménadou Chénier.
Écoutez, plusieurs choses. Je pense que ça bloque parce que tout simplement la conscience du peuple opprimé de France se débloque. Et je pense qu'à un moment, lorsque vous constatez plusieurs samedis de suite, pendant plusieurs semaines de suite, qu'il y a du monde dans les rues et qu'il y a plusieurs manifs, que ce soit le soutien, alors sur le plan international avec le conflit Israël-Palestine, sur le plan social, je vous rappellerai quand même les plusieurs semaines où vous aviez plusieurs millions de Français qui étaient mobilisés contre la loi travail. Bien, il y a des parlementaires qui à un moment se disent ben là, il faut que je fasse gaffe parce qu'il y a du monde dans les rues. Sur le terrain extra-parlementaire, il y a du monde. Ils attendent de voir. Et ce, nous,
politique.
On marche dans le je vote le projet de loi de Monsieur Darmanin. Ça risque de faire jaser. Ça, c'est la première chose. Ensuite, vous savez, le problème qui se pose, c'est que ce texte, là où je suis plutôt d'accord, effectivement, c'est que le texte va repartir, il va être travaillé, il va revenir. Mais j'ai envie de vous dire que dans le même temps, s'ils veulent faire passer un texte, ils le feront passer par un 49-3. Ils n'ont pas besoin. Et on a constaté plusieurs fois que même si les parlementaires votaient contre, ils passeraient de force. Je finirai par là. C'est-à-dire qu'en fait, vous savez, moi, ce que je constate, c'est que les Républicains, les RN, les écologistes, alors je vois qu'il y a une incohérence, une harmonie de fonctionnement entre des partis qui se disent partis républicains entre guillemets et un parti qui est d'extrême droite. Alors moi je me dis c'est bizarre parce que lorsqu'il s'agit de voter certains textes, ils s'entendent tous. Par contre, ils s'entendent pas lorsqu'il s'agit de déclencher l'article 68 de la Constitution. Par contre, ils s'entendent pas lorsqu'il s'agit de valider l'augmentation des salaires pour les millions de Français qui galèrent. C'est bizarre, ça.
Mais là,
c'est une position de classe.
Il faut partager la parole, camarade. Et en l'occurrence, moi, ce qui m'a étonné quand j'ai lu cette dépêche, c'est, je vais vous la relire comme je l'ai lu tout à l'heure. La motion de rejet déposée par les écologistes adoptés, donc la gauche, la droite, l'extrême droite se sont accordés pour faire bloc et rejeter. Bon, qu'elles concordent, j'ai envie de dire. Alors après, effectivement, ils ne sont pas tous animés par les mêmes raisons. Mais ce qui m'étonne à chaque fois, et pour pas continuer à répéter certains arguments qui ont été exprimés ici, c'est qu'à chaque fois qu'on veut qu'un président, je pense à François Hollande à l'époque, vous savez, après les attentats, il avait lancé cette histoire d'échéance de nationalité française, en disant, ben moi, je veux réunir le pays autour d'une histoire de déchéance de nationalité française, alors que la loi prévoit déjà tout l'arsenal légal pour pouvoir déchoir quelqu'un de la nationalité française dans certaines conditions.
Et vous avez raison.
Et là, on nous fait la même chose pour soi-disant fédérer je ne sais quoi, alors si c'est le Parlement ou autre chose, autour de quoi, encore une fois, l'immigration, l'étranger, alors qu'en ce moment, et là, je rejoins Jimmy.
Ce qui est rare.
Mais je le rejoins quand il dit qu'il y a d'autres choses qui sont plus importantes. On parlait de la loi travail, on parlait de choses qui sont, on va dire, plus immédiates. On a la COP28 qui est donc qui s'achève.
En ce moment même.
Oui, mais qui s'achève.
Qui s'achève.
Il y a des sujets extrêmement importants. Exact. Mais non, on fait l'immigration. Oui. Et donc tant mieux, ça a été rejeté.
Je lance la pause. J'ai obligé de lancer la suite. Je lance la pause. On se retrouve tout de suite après. Si vous voulez en parler, 01 53 48 3000. À tout de suite.
Les informés reviennent dans un instant. 19h-20h. Les informés, présentés par Adil Farkan sur Beurre FM.
Il est 19h41 précisément. Les débatteurs influents sur le face-à-face avec Jimmy Dalidou, Mehdad Ouchenir, Philippe Nadji Bouriaki et enfin Merwan Mihobi. Tout de suite, nous allons parler, continuer de parler des sujets qui nous animent. Alors, peut-on considérer qu'aujourd'hui, en ce moment même, le président de la République, chef de l'État, s'entretient avec Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur. Est-ce qu'on peut considérer qu'il est complètement désavoué, Philippe Nadji Bouriaki?
Non, pas du tout.
Pas du tout.
Au contraire. Au contraire, je pense qu'aujourd'hui, Gérald Darmanin a toute sa place au gouvernement, même bien plus, je dirais. Et la gauche lui a donné l'occasion de réunir les macronistes et la droite, la droite conservatrice. Et c'est pour ça qu'il va élargir. La loi va être refaite. Il n'est pas question. Mais attendez, il a été soutenu complètement par la première ministre. Qui applique quoi? Qui applique une décision venant du chef de l'État. Sinon, il aurait dit dès le départ, tu passes le 49-3 et on se prend pas la tête. Si c'est un piège qui a été tendu.
Est-ce qu'il a le soutien du peuple français? Un parlement qui, indépendamment de ce qu'on pense, c'est un succès. Est-ce qu'il a le soutien du peuple français?
Il y a deux questions. Donc, si on peut répondre à une, moi je veux bien. Alors, on commence par laquelle? Par Jimmy Dalido.
Oui. Non, tu veux,
ta question.
Non, mais tu penses vraiment que M. Darmanin représente est vraiment plébiscité et porté dans le cœur des Français?
Je crois que
ce qui est fondamental, c'est qu'il soit plébiscité.
On peut pas répondre à Jimmy Dalido. Très bien. Moi, je propose un référendum très simple, Asile. Une dissolution de l'Assemblée nationale, ça va mettre tout le monde d'accord.
C'est ce que vous proposez.
Moi, je propose ça, dissolution de l'Assemblée nationale.
Quoi? Une vague de. Alors, de pas RN. Tout à fait la même chose. Je propose que les députés se réveillent et qu'ils fassent leur boulot, mais ça, c'est un peu plus du domaine de l'impossible que ce que
ça, c'est du fictif, ça. Ça, c'est du scénario fictif, ça.
Mais,
pour moi, c'est un désaveu complet de Darmanin, voilà, qui cherche des faux sujets. Alors, l'immigration serait le problème en France, oui, mais peut-être qu'il faudrait aussi s'occuper de la police, ou peut-être aussi qu'il faudrait se mettre d'accord avec la justice. Pour moi, un Parlement qui refuse un texte comme de cette manière-là, et en plus de ça, il est convoqué par l'Élysée, c'est la preuve qu'il y a un beau malaise, et voilà.
On espère ne plus l'avoir. Non, mais écoutez, je pense qu'indépendamment de ce jeu politicien, parlementariste, je pense qu'il faut vraiment prendre le pouls de ce qui se passe sur le plan économique, social, surtout sur le plan économique et social. Parce que ce qu'on constate, c'est qu'actuellement, la plupart des Français, qui soient indépendamment de leur origine et ethnique, etc. Le véritable racisme en France, vous savez, c'est lequel? C'est le racisme de classe anti-prolétaire qui divise le peuple français et qui actuellement galère. Je vous rappellerai que les salaires n'ont pas augmenté et que les Français, une fois qu'ils ont payé leurs factures, ils ne savent plus comment vivre. C'est ça la véritable réponse à apporter.
Allez, on va avancer. Vous pouvez aussi intervenir au 0153 48 3000. 6 mois après les violences provoquées par la mort de Naël, souvenez-vous, à Nanterre, le rappel à l'ordre des parents d'émeutiers par la ministre de la Justice, Madame Aurore Berger, propose, vous savez quoi, des travaux d'intérêt général pour les parents défaillants. Alors, cette proposition, elle tient ou elle tient pas? Tiens, on va commencer par
Non mais c'est.
Vous, non, je vous vois vous arracher. Non, mais c'est, vous arrachez les cheveux. Qu'est-ce qui se passe?
On va de blague en blague avec la Macronie. On va de blague en blague. Alors bon, bah maintenant, on va. Bah,
c'est des blagues.
On peut pas punir les enfants. On va punir les parents. Mais dans quel monde vivent ces gens-là? En fait, ils n'ont pas les pieds sur terre. Commencez par régler le problème de l'éducation nationale. Commencez par donner des moyens à la police et de les mettre d'accord avec la justice pour que les peines soient appliquées. Et ensuite, on ira vers de la politique sérieuse. Parce que chercher à vouloir punir des parents qui, la plupart du temps, sont déjà dans la merde, hein, faut le dire. Les parents qui ont des difficultés avec leurs enfants, ils sont dans la merde. Et vouloir aller courir après eux pour leur dire vous allez faire ci, vous allez faire ça, et faites votre boulot et politique. Allez vous occuper de l'éducation nationale. Faites-nous des vrais programmes. On a vu le classement PISA, ça a été une catastrophe, d'accord. Commencez par éduquer les enfants, à appliquer les peines de justice et à vous occuper de la police, parce que la police.
Jimmy Dalido,
bah écoutez, effectivement, lorsqu'on constate que Macron et ses copains représentant l'oligarchie financière, ce que j'appelle les banquiers fanatisés, lorsque eux sont ultra défaillants, plus que défaillants, parce que détruisant les âmes françaises,
mais ce sont les parents,
et détruisant notre pays qui est devenu un portefeuille pour multinationales, est-ce qu'ils sont punis? Alors voilà, pourquoi on punirait les parents? Parce qu'ils sont prolétaires et parce qu'ils galèrent et parce qu'ils n'ont pas de temps et parce qu'une fois qu'ils sont rentrés du boulot, ils n'ont plus de temps.
Vous voulez une vraie mesure?
Remettez
le service militaire aux enfants qui sont en déroute. Ceux qui ont 15, 16, 17 ans et qui sont dans la rue, qui galèrent, vous leur mettez le service militaire et vous les mettez.
Mais pourquoi pas?
Non, mais pour tout le monde.
Liberté, égalité, fraternité.
Liberté, égalité, fraternité. Mais force est de constater qu'il y a des enfants qui sont paumés.
On est dans le droit chemin. S'il vous plaît, Mélade Ouchéni, Philippe Nadjiboyaki.
Sur le dernier propos, qui vient d'être tenu, c'est que les militaires, pour moi, ne sont pas des babysitters ou qui ont vocation à gérer les enfants turbulents. Je suis pour un retour du service militaire, potentiellement sur la base même du volontariat.
Bien sûr, il ne s'agit pas de faire du mal aux enfants.
Mais pas uniquement dédié à celles et ceux qui seraient en déroute. Je suis sûr qu'il y a des jeunes très bien sous tout rapport, dans le sens où ils ne commettent aucune infraction par ailleurs, qui voudraient s'engager dans l'armée.
Bien sûr.
Pas que l'armée devienne une espèce de ramassis des jeunes qui.
Alors je viens d'apprendre une nouvelle. Gérard Darmanin a présenté sa démission à Emmanuel Macron.
Parfait.
Qu'il l'a refusé.
Voilà,
qu'il l'a refusé.
Clair. Bravo.
Voilà.
Évident.
Bravo à lui.
Ça fera pas augmenter le chômage.
Donc, c'est l'info du jour.
Absolument. Et donc sur le sujet des parents, mais effectivement, moi j'ai toujours dit, je l'ai souvent dit ici sur ce plateau, faut pas confondre l'éducation et l'enseignement. L'éducation nationale chez nous, en fait, c'est de l'enseignement. Ils sont censés mettre en place des dispositifs pour qu'on apprenne le français, les maths, l'histoire.
Qu'ils ne font pas.
Ça fonctionne pas super.
Qui a été détruit sur le
ça fonctionne pas super.
Il y a zéro.
Mais
le résultat,
pardon,
qui a été détruit
pardon,
par votre
privatisation. C'est pas non plus, parce que les classements PISA et autres, on peut aussi discuter de l'échelle sur laquelle on est évalué, parce que moi je juge pas un poisson à sa capacité à grimper aux arbres dans l'absolu, donc faut pas non plus.
A priori, les Coréens sont des êtres humains aussi.
Bien sûr, mais en Corée, les moyens et les dispositifs qui sont mis en place pour l'éducation
et le contribuable paye
sont nettement
paye combien pour l'éducation nationale.
Et on en revient à l'éducation des parents, parce qu'en Corée, on peut comparer. Je connais un tout petit peu le sujet de l'éducation coréenne ou japonaise versus l'éducation française ou méditerranéenne, qui est encore une autre. Et là aussi, ça conditionne beaucoup. On a beaucoup, par exemple, en Corée, d'enfants qui se suicident du fait de la pression qui est mise par leurs parents pour les notes à l'école. Vous avez un équivalent du baccalauréat.
Non, mais
ça
évidemment,
comme ça.
Ça, c'est les si extrêmes.
Vous
alors,
pas,
forcément,
vous
si pas on faire caricature le sujet.
Donc, simplement, je dis que oui, les parents, la responsabilité des parents doit être davantage engagée. On a déjà un code civil qui permet de le faire, mais pourquoi pas. Je trouve les mesures de Madame Berger un petit peu douces, un petit peu gentilles, mais c'est peut-être qu'un début. Mais oui, il faut davantage mobiliser ou remobiliser les parents et créer un rapport risque sur profit.
Vous êtes d'accord avec la ministre?
Je trouve que la ministre est dans ses mesures parfois même un peu douce dans ce qu'elle propose. C'est mon point de vue.
Philippe Nadjiboyaki.
Bah moi je dis que tout simplement.
Plus de sévérité donc.
Fermeté, pas sévérité.
Fermeté. Dites-moi, Philippe Nadjiboyaki.
Non, les parents, il n'y a pas d'école, il n'y a pas de diplôme pour être parent. Il y a ceux qui arrivent à tenir leurs enfants par différentes méthodes, par l'amour, par de la crainte. Moi, ma mère, elle me regardait, je faisais 100 kilos, je me faisais dessus. Hein. Je suis champion, j'ai été plusieurs fois champion de kickboxing, de full contact, de Krav Maga. Je ne plaisante pas. Un regard de ma mère et je me faisais dessus, c'est pas une blague. Et les trois frères, pareil. Donc, voilà. Et il y a d'autres parents, moi, je les ai vus regarder leurs enfants dans tous les sens. Leurs enfants, c'était des diables. Moi, le dernier, je vais avoir des problèmes avec. Mais j'ai une solution. Parce que du coup, on va l'encadrer de manière militaire. Moi, je suis pour justement. Ségolène Royal avait proposé justement en 2007 et beaucoup de gens l'avaient ricané en disant ceux qui ont des grandes difficultés et qui sont incontrôlables devraient avoir une structure militaire,
un cadre
militaire. Donc c'est pas un service national, c'est-à-dire que leur peine doit être encadrée par des gens qui vont pas les briser psychologiquement, parce que quand vous faites des activités en plein air de civisme, lorsque vous débroussaillez des forêts, lorsque vous avez nettoyé le littoral, lorsque vous avez porté assistance à des personnes âgées avec la protection civile, enfin un truc où ça a du sens que vous faites au quotidien pour la collectivité et en même temps vous réparez votre peine que vous avez causée à d'autres, ça a du sens et ça va faire entrer du plomb à certains. Après il y en a, ils sont irrécupérables, il y a rien à faire. Si c'est des pathologies, on peut faire ce qu'on veut, on peut pas les récupérer. Là c'est un autre traitement qu'il faut avoir. Et je pense à un traitement médical encadré avec des peines qu'il faut qu'ils exécutent, parce qu'il faut aussi rembourser sa peine. Maintenant, les parents, ceux qui sont démunis, vous allez sanctionner alors qu'ils sont démunis. Par contre, il faut bien prendre en ligne de compte que si vous ne pouvez pas, c'est la société qui va s'occuper d'eux. À vous de voir. Moi, je rappellerai une chose. Pendant les émeutes qu'il y a eu cet été, j'avais donné la consigne à certains parce que moi,
en quelques secondes.
J'étais dans le sud et donc j'ai dit, tous les minots que vous attrapez dehors, vous les montez. Si les parents, ils sont pas contents, vous leur expliquez ce que c'est la France. D'accord? Il y a un parent, il a dit, mais moi, j'ai mis une torgnole à mon fils. Alors, je dis pas que c'est la solution. Je ne dis pas ça. J'ai mis une torgnole à mon fils, je me suis retrouvé convoqué au commissariat et le procureur m'a dit, monsieur, on fait rappel à la loi, la prochaine fois on vous envoie en prison. Mon fils n'a pas peur de moi, de qui vous voulez qu'il ait peur?
Qu'est-ce que je fasse? C'est ridicule.
Non, mais c'est ridicule, mais c'est une réalité. Donc, quand vous faites des lois où l'autorité parentale disparaît complètement, vous ne pouvez pas en même temps reprocher aux parents de ne pas appliquer
leur... C'est le en même temps.
C'est le en même temps, le côté négatif,
qui donne rien. 19h50, le quoi de neuf, c'est parti.
Les informés. Le quoi de neuf.
Le quoi de neuf, c'est comme chaque lundi. Et bien désormais, vous le savez, c'est avec Michel Taube. Michel Taube, qui est le directeur fondateur d'Opinion Internationale, le média en ligne. Bonsoir, Michel Taube.
Bonsoir, cher Adil, et bonsoir aux auditeurs de Beurre FM.
Comme je suis en retard, je vous lance. Vous avez décidé de consacrer votre billet d'humeur autour de la loi immigration. Justement, on en a longuement parlé durant cette émission et on vient d'apprendre que Darmanin a proposé cette émission et que Macron l'a refusée.
Absolument. Alors en fait, est-ce que c'est une bonne nouvelle ce qui s'est passé? En fait, en votant la motion de rejet présentée par les écologistes, les oppositions se sont liguées pour mettre la majorité en minorité. Donc en fait, on n'a plus de majorité à l'Assemblée nationale. Mais est-ce que c'est une bonne nouvelle? Alors la bonne nouvelle, c'est qu'on va échapper à 15 jours surenchère sur la question de l'immigration, oui, qui aurait à mon avis suscité mais vraiment des horreurs de tous les côtés des bancs de l'Assemblée nationale. Oui. Mais en revanche, techniquement, si le gouvernement ne décide pas de retirer définitivement le projet de loi, cela veut dire que c'est la commission paritaire du Parlement qui va se réunir, qui réunit des sénateurs et des députés. Mais dans cette commission, il y a une majorité de droite, ce qui veut dire que la loi qui sera adoptée au terme de cette commission sera une version très proche de celle qui a été adoptée au Sénat il y a quelques semaines. Donc ce sera le pôle, on va dire, plus régalien, plus dur, plus sécuritaire de la loi sur l'immigration qui sera au final adoptée. Voilà ce que cela signifie, le vote de cette motion de rejet. Ensuite, il y a un aspect qui est politique. C'est que Emmanuel Macron se retrouve face à un des moments de vérité de son quinquennat, parce qu'on savait qu'il avait une majorité relative, mais en fait, il n'a plus de majorité. Il est minoritaire. Et plus il va y avoir des sujets extrêmement sensibles qui vont être déposés à l'Assemblée nationale, et plus, à mon avis, il y aura une coalition des oppositions contre lui. Il faut se demander si le chef de l'État ne devrait pas, en réponse à ce pied de nez de l'Assemblée nationale, dissoudre l'Assemblée nationale, provoquer des élections anticipées et amener les Français finalement à trancher, parce que là, nous sommes dans une véritable impasse politique, et cette impasse politique, elle va durer encore 2-3 ans. Est-ce que la France peut se le permettre? Je ne le crois pas. Bref, c'est un moment de vérité qu'on a connu. Sur la question de l'immigration, ça ne veut pas dire qu'une version plus douce du projet va être adoptée, bien au contraire, mais ensuite, sur le plan plus politicien, je pense que nous sommes dans une impasse et qu'il faut lever cette impasse. Et le dernier mot en vient, sous la Ve République, au président de la République. Voilà ce que je voulais dire, mon cher Adil.
Merci et bravo pour ce billet d'humeur, comme chaque lundi. À lundi prochain. Il vous dit bravo, Philippe Nadji-Boriaki. Il vous dit bravo.
Je suis vraiment fan. Merci, Michel.
Il est fan de vous, merci Philippe Nadji-Boriaki. Le conseil régional est fan de vous, vous dit Michel Taube.
Ah, bah écoutez, c'est un plaisir et j'espère vous voir bientôt.
Je regrette que Michel Taube ne fait pas de la politique.
Ouais. Ah bon?
Il en fait par les infos qu'il envoie, mais qui ne s'implique pas plus que ça.
Voulez-vous lancer en politique, Michel?
Ah, ça arrivera un jour.
Ça arrivera un jour.
Ah, super.
Merci Michel Taub. Voilà, le directeur fondateur d'Opinion Internationale. Merci à vous. Merci à Philippe Nadjiboyaki.
Merci à vous.
Merci à Marwan Mehoubi.
Merci.
Merci à Jimmy Dalidou.
Merci.
Merci à Mena Douchenir.
Merci à vous.
Au plaisir.
Au plaisir.
À la réalisation, c'était Solal. Merci à tous les nombreux auditeurs et auditrices d'avoir eu de réagir, comme chaque soir, vous le savez. Milan Edman, ça c'est le programme de 20h à 21h, c'est Tamsport. Ensuite, Vanessa pour Confidence jusqu'à 23h, de 21h à 23h, pardon. Kim, à ne pas manquer demain matin, 7-10, c'est la matinale. Quant à moi, à demain, avec autant de plaisir. Mais surtout, qu'est-ce qu'on fait?
On ne lâche rien.
Ouais. Retrouvez les informés tous les jours de 19h à 20h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.